Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous écoutez
Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
Alors, c'est vendredi, nous parlons à l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme.
Bonjour Richard.
Écoute Jérôme, on sait que tu es au Mexique. Écoute, décision importante, hein, le Mexique qui a légalisé l'avortement finalement, parce qu'il y avait une loi qui condamnait l'avortement en disant que la vie commence dès la conception. Cette loi-là a été jugée anticonstitutionnelle, donc j'imagine pour les femmes, c'est un grand jour au Mexique.
Oui, une grande victoire pour les féministes mexicaines qui sont très, très actives. Et je te dirais que le mouvement féministe au Mexique peut être des fois assez violent.
Ah oui?
Oui, c'est l'année dernière, ils ont quand même essayé d'incendier la cathédrale métropolitaine de la ville de Mexico. C'est l'équivalent de Notre-Dame de Paris.
Oh!
Et un groupe de féministes a réussi à incendier une partie de la façade de ce joyau historique. C'est récurrent, là, parce que le Mexique, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de féminicides, là. Les meurtres des femmes disparaissent chaque jour au pays. Des fillettes également, des gars aussi, des garçons. Mais c'est sûr que la violence envers les femmes en Amérique latine est un problème extrêmement grave. Donc, il y a une colère dans l'air qui est légitime. Après, le vandalisme de monuments historiques, c'est autre chose. Mais concernant l'avortement comme tel, les féministes, évidemment, s'en réjouissent. Et le Mexique est un pays marqué encore par la tradition catholique. Donc, on voit que le Mexique poursuit sa libéralisation entamée au 19e siècle, mais c'est lent. C'est beaucoup plus lent que dans les pays occidentaux.
Écoute, on revient au Canada. Barack Obama, qui est allé à la rescousse de Justin Trudeau. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
J'en pense que c'est une ingérence inacceptable. C'est un manque de respect envers les électeurs canadiens, progressistes et conservateurs de toutes les allégeances. Je trouve ça vraiment pas fort. C'est vraiment pas fort. C'est un acte déloyal. C'est pas fair play. Et on dirait que quand c'est le bon camp qui s'ingère, ben ça passe comme du beurre dans le poids. Alors que si, j'imagine Donald Trump appuyer...
Erin O'Toole? Ou Manon Maxime Bernier?
Plus. Exactement.
Ben oui.
Ou l'année dernière, Andrew Scheer, son nom m'échappait, mais ça serait la même chose pour Bernier, etc. Est-ce qu'on imagine Donald Trump, ou même un de ses successeurs, à la tête du Parti républicain, prendre parti pour une de nos droites canadiennes? Évidemment, ce serait un scandale.
Ben, mais en déjà, là, écoute, François Legault qui a dit qu'il espérait la victoire du Parti conservateur. Il y a des gens dans la gauche au Québec qui ont déchiré leur chemise en disant, mais c'est dégueulasse, c'est de l'ingérence, c'est drôle. Mais quand c'est Obama, là, ça passe.
Exactement. En 2019, Élections Canada avait conclu que c'était pas de l'ingérence parce que M. Obama n'avait pas été rémunéré par le Parti libéral du Canada pour faire cette sortie-là. Mais je trouve quand même que les critères semblent assez subjectifs. Et on est un peu dans le deux poids du mesure. Donc, je le répète, quand c'est le bon camp qui intervient, ça n'a pas l'air si grave. Quand c'est le camp du mal qui intervient, ça a l'air pas mal plus grave. Et je pose la question, tu sais, Barack Obama, c'est un type qui a plein de qualités, etc., grand orateur, il marque l'histoire américaine, etc. Mais qu'est-ce qu'il sait vraiment de la politique canadienne, ce type-là, là, tu sais,
le Canada? Mais je te dirais, qu'est-ce qu'il a fait de si génial lorsqu'il était président? Est-ce qu'il a réglé les problèmes entre les Blancs et les Noirs? Non. Il utilisait des drones pour... Tu sais, il se contentait pas, lui, d'envoyer les gens suspectés de terrorisme à Guantanamo. Il prenait des drones pour les tuer.
je veux pas en rire, c'est pas drôle.
Mais non, mais c'est ça, là. Ça veut dire, étais-tu un président si extraordinaire que ça?
Ben écoute... On pourrait en parler longtemps, probablement de son bilan ou de son progressisme à deux vitesses. évidemment, son bilan est très contesté. Tant qu'à moi, c'était surtout un bon orateur.
Oui.
C'est surtout un très, très bon communicateur. C'est un grand preacher. Obama pourrait être un grand preacher. Ça pourrait être un prêtre. Là.
Et il était cool, quand même.
Bon, il est du bon bord.
Hein, oui, il était cool. D'ailleurs, est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois, pour toi, est un woke? Il a été traité de woke par François Legault. Je sais pas si Legault sait c'est quoi un woke, mais en tout cas, bref, selon toi.
Ben, il a tenté une définition qui était pas si mal. François Legault a insisté sur le sentiment de culpabilité. Donc, il a dit que les woke veulent que les Québécois finalement se sentent mal de préserver leur culture. C'est pas faux. Je vous en dis, c'est une définition qui pourrait aller beaucoup plus loin. Ben oui, Gabriel Nadeau-Dubois est forcément un woke au sens de la nouvelle gauche dite éveillée. Et Québec solidaire, au complet, est un parti woke. Là. Donc, le but du wokisme, si je poursuis la définition de François Legault, c'est d'abolir toutes les formes d'oppression imaginables qui existent sur Terre, toutes les formes d'oppression, donc culturelles, psychologiques. Donc, c'est vraiment le but, c'est d'établir un grand safe space où nos petits lapins, comme tu les appelles, Richard, seraient complètement là, à l'abri de tous les dangers qui les guettent, là, de toutes les oppressions. Et ben le Québec solidaire s'inscrit parfaitement dans cette dynamique-là. On peut pas le nier. Là.
Mais il y a des gens plus woke que Gabriel Nadeau-Dubois, là, la gang du collectif là, antiraciste décolonial, qui noyaute un peu Québec solidaire. Je sais pas si Gabriel Nadeau-Dubois se sent vraiment très proche de ces crinqués-là.
Il est plus pragmatique qu'avant.
Oui.
C'est un politicien maintenant. C'est ça qu'on lui reproche aussi, j'imagine, chez les woke purs et durs. Je suis pas sûr que Gabriel Nadeau-Dubois, par exemple, serait d'accord avec les autodafés de livres qu'on a vus en Ontario. Pas sûr qu'il y prônerait pour sa carrière politique. Ce serait pas son meilleur calcul que de dire « à go, on fait une épuration dans les bibliothèques du Québec et tous les Lucky Luke, les Tintins, etc., on les brûle puis on en fait de l'engrais, là ».
Je pense qu'il est représentant, tu sais, la bonne vieille gauche, là, je dis ça entre guillemets, mais tu sais, qui défendait le petit travailleur, la gauche de Michel Chartrand, la gauche des combats syndicaux à l'époque. Je pense que il est plus de ça, lui, essayer d'améliorer la vie des petits travailleurs plutôt que d'aller dans des lubies complètement flyées des woke, là.
Ben, je l'espère. Tu lui fais tout un compliment ce matin. Je sais pas s'il s'attendait à ça de ta part ce matin, notre Gabriel Nadeau-Dubois. Mais tant mieux. C'est possible, en fait. Je le sens plus pragmatique qu'avant.
Mmh.
Et
ouais.
Il est plus politicien. Il maîtrise aussi très bien la langue de bois. Donc, il est quand même devenu, c'est ça, un stratège politique, là. Donc, il peut pas se permettre de prôner toutes les lubies. Comprendre effectivement dans l'aile radicale du parti. Et si j'ai bien compris, là, on a vu que le début de la session parlementaire, qui, d'après moi, il va incarner pas mal l'opposition officielle cet automne.
Ben oui.
D'abord, le chef du PQ, lui, ben, n'a pas de siège. Madame Anglade, je la trouve pas très bonne. Honnêtement, bon, il va falloir qu'elle fasse autre chose que des petites vidéos sympathiques. On comprend qu'elle veut se rapprocher du peuple. Mais ça marche pas beaucoup. Là. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'elle fasse pas mal plus que ses vidéos.
Mais je sais pas si Gabriel Nadeau-Dubois souffle, s'il parle des deux côtés de la bouche. C'est-à-dire que lorsqu'il parle aux Québécois, il tente d'avoir un visage pragmatique, mais quand il parle à sa gang, à Québec solidaire, peut-être qu'il est beaucoup plus radical que ce qu'il laisse paraître.
C'est possible.
Écoute, il y en a un autre qui va faire peut-être de la politique, qui va faire le saut. Éric Zemmour, qui va faire le saut. Ça va vraiment faire, écoute, ça va faire des vagues en France. Et là, tu dis qu'il arrive avec, bon, il y a un programme là, qui a développé, puis il y a une loi un peu particulière sur les prénoms.
Oui, c'est assez incroyable. Le pari de Zemmour, je pense, c'est le pari trumpien. Hein? Il a l'air convaincu. J'ai écouté son entrevue, sa longue entrevue. On est en direct, l'émission française avec Laurent Ruquier et Léa Salamé. Et c'est là qu'il a un peu déballé là, ce qu'il avait à dire sans officialiser sa candidature. Et à ce que je comprends, là, Éric Zemmour pense que c'est vraiment en étant le moins politiquement correct qu'il va rallier une partie de la population française. Ça a l'air vraiment, il fait le pari un peu de Trump à la française. Le candidat radical, c'est lui. Et il contribue quand même à tasser Marine Le Pen à gauche. Hein. Ça, c'est,
ben oui.
C'est quand même fou. Donc, peut-être que Marine Le Pen le remerciera d'une certaine façon si elle passe au deuxième tour à la place de lui, là. Parce qu'il va se présenter, là. On comprend que c'est un secret de polichinelle.
Mais il va diviser la droite dure, là.
Complètement. C'est complètement. Le défi, c'est un peu là. Il divise son camp. En même temps, Marine Le Pen, c'est ça, peut le remercier de la faire passer pour modérer, mais en même temps, elle doit être en beau quelque chose.
Ben oui.
Parce que, évidemment, écoute, c'est ça. Le camp est vraiment splitté en deux, si je peux me permettre.
Et c'est quoi sa loi sur le prénom?
Ça, c'est fou. Il veut réhabiliter. Écoute, il en fait vraiment pas une obsession, mais disons quasiment une priorité. Il veut réhabiliter la loi de 1803. C'est une loi qui forçait les Français à choisir un prénom qui fait partie du calendrier chrétien. Et, et donc, les Mohamed, tu comprends,
oui.
Ils visent pas les noms, hein, c'est que les prénoms. Il l'explique bien. Il dit le nom, c'est l'origine. Le prénom, c'est la France. Et je me suis amusé parce qu'il y a un site Internet qui maintenant permet de tester votre prénom pour voir s'il est conforme à la loi que veut réhabiliter Éric Zemmour.
Ben,
j'ai été très surpris d'apprendre que le prénom que ma femme et moi avons choisi pour notre fille, qui va naître bientôt, n'était pas bon.
C'est quoi ton prénom que tu as choisi, tu peux le dire?
Anna Victoria.
OK, c'est beau. Bon,
ma femme est mexicaine, donc oui. En plus, moi je pensais que c'était un nom qui était bien occidental. Bon, ben, c'est sûr qu'une consonance espagnole. Mais j'ai été surpris que moi, Richard, est quand même pas un grand bien-pensant et plutôt patriote. Et j'étais un grand amoureux de la France, dont le prénom de ma fille serait rejeté par la loi d'Éric Zemmour.
Mais Éric Zemmour là, souvent dit, comment ça se fait qu'avant, les immigrants qui arrivaient prenaient un nom français? Yves Montand, il était italien, c'était Ivo Lévy. Et par respect son pays d'accueil, il a francisé son nom, il a pris un nom Yves Montand. Il dit que les immigrants devraient continuer à faire ça plutôt que de garder leur nom d'origine.
C'est quand même délicat.
C'est spécial. Ben oui.
C'est délicat.
Ben
en même temps, je comprends une partie de ce qu'il veut dire. Là. C'est sûr que Aznavour, c'est Aznavourienne, hein,
oui.
Etc. Et c'est sûr que ça témoigne d'une volonté d'intégration. C'est sûr que, bon, les Français, chaque année, voient les prénoms les plus choisis pour les enfants naissants. Mais chaque année, il y a une espèce de palmarès. Là. Et là, bon, évidemment, Mahomet sort beaucoup. Donc, on voit qu'il y a une certaine islamisation à travers les noms. Mais je trouve ça quand même délicat parce que ça touche vraiment l'identité personnelle des gens. Puis, en tout cas, est-ce que... Puis la question sur le plan stratégique, Richard, est-ce que ça va pogner, entre guillemets... Est-ce que Zemmour, en insistant sur ce genre de programme-là, peut récolter une majorité d'électeurs? Écoute, c'est quand même spécial.
Non, c'est la droite très dure. Écoute, et comme tu dis, Marine Le Pen devrait être en beau joie le vert. Ben, merci beaucoup. Puis écoute, c'est pour quand la naissance?
À 2-3 semaines, Richard, on est sur le qui-vive. Là.
Dans 2-3 semaines, wow, bonne chance. Ben, on va se reparler d'ici là. Bonne chance. Puis tu salueras ta douce. Salut,
Jérôme Blanchet-Gravel.
Salut, Jérôme Blanchet-Gravel.